Vous écoutez France Culture.
Diffusé tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par Bertrand Chaumeton, avec Jacques Hubert à la technique et préparé par Jeanne-Marie Roux, Avril Ventura, Mathilde Unger, Geneviève Méric, Adèle Van Rett. Adèle Van Rett qui vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins où elle recevra Nicole Pellegrin qui propose une anthologie des écrits féministes de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir. Suite ce mardi d'une semaine sur Aristote le Grand. Après Frédéric Werther, venu hier parler du caractère, avant Annick Stevens, qui vous parlera demain de la physique d'Aristote, c'est le philosophe Bernard Sicher, à qui l'on doit notamment une traduction nouvelle de la métaphysique chez Pocket, qui est aujourd'hui notre invité, Bernard Sicher, qui viendra discuter un peu de la théologie aristotélicienne. Puisqu'il existe quelque chose qui met en mouvement, tout en étant soi-même immuable, et qui est à l'œuvre, il ne lui est en aucune manière possible d'être autre qu'il n'est. En effet, le transport est la première forme du changement, le premier parmi les transports est le transport circulaire. Et c'est de ce mouvement que meut ce quelque chose de premier. Par conséquent, c'est de toute nécessité que cet être immuable existe. En tant que nécessaire, il est de belle venue et c'est en ce sens qu'il est puissance initiale. Car nécessaire a toutes ses significations à la fois. Ce qui est par violence, au sens où cela vient à l'encontre d'une impulsion, ce sans quoi il n'y a rien qui vaille, enfin, ce qui ne peut pas être autrement qu'il n'est, mais qui est absolument. C'est donc à une telle puissance initiale que sont suspendus le ciel et le règne des étangs. Bonjour Bernard Sicher.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. C'est un plaisir de vous accueillir au Nouveau Chemin.
Merci.
Pour la première fois, on va parler de Dieu ensemble et des étangs, dont je précise naturellement qu'ils s'écrivent E-T-A-N-T-S et non pas avec un G. On va parler de Dieu ensemble, du Dieu d'Aristote et des difficultés qui naissent de cette transcendance active. Mais d'abord, une question de style ou de fond, c'est selon. Quand, et un souvenir personnel, quand je préparais l'agrégation, qu'il faut atteindre pour entendre enfin parler un peu sérieusement d'Aristote, les cours sur Aristote, malgré quelques professeurs exceptionnels comme Francis Wolff, qu'on recevra jeudi, étaient attendus, donc ces cours-là, comme la roulette du dentiste. Un style abscon, des préoccupations en apparence obscure, une langue archi-scolastique, hyper-scolastique, autant de raisons de n'étudier Aristote que sous l'effet de la contrainte. Or, vous-même, Bernard Sicher, racontez que quand vous avez passé la grecque, vous avez fait connaissance avec Aristote et qu'il vous a bouleversé au point de supplanter manifestement le bonheur de lire Platon. Alors, première question qui n'est pas si anecdotique que ça, comment une telle rencontre s'est faite? À qui ou à quoi, à quelle intuition, à quel professeur, peut-être, devez-vous d'être ainsi tombé amoureux d'Aristote?
Oui, alors on a une expérience commune, si je comprends bien, c'est qu'on a été obligé de lire Aristote grâce à l'agrégation de philosophie.
Parce on commence
que
par dire à cause d'elle.
Voilà. Mais c'est une contrainte heureuse, heureuse contrainte, parce que on ne nous parlait pas d'Aristote. Au lycée, du tout. C'était toujours Platon. Alors, ça reste...
On ne sait d'Aristote au lycée qu'il a été l'élève de Platon et le précepteur d'Alexandre.
Platon. Alors, on nous parle éventuellement d'Aristote, on nous parlait en tout cas uniquement à travers la logique. Alors, à moins d'être un passionné de logique formelle, ce qui n'était pas le cas, il a fallu quand même que j'étudie tout ça, mais c'est la métaphysique qui m'avait stupéfait, parce qu'au début, je n'y comprenais rien. Et heureusement...
Rappelons que par métaphysique, vous désignez le volume intitulé métaphysique.
Le volume qu'on appelle aujourd'hui la métaphysique d'Aristote, voilà. Évidemment. Voilà. Qui ne s'appelait pas, qui n'a pas de titre, en fait. Bon, ça, c'est toute une histoire. On ne va pas peut-être rentrer dans le détail.
Non, mais des textes compilés sous le titre métaphysique.
Sous le titre de Metataphysica, c'est-à-dire après la physique. Alors, là-dessus, on a beaucoup glosé, en fin de compte. Mais en tout cas, ça veut dire une chose, c'est que, et c'est évident quand on le lit, c'est un texte qui vient après la physique. Il suppose qu'on a d'abord lu la physique pour ensuite aller plus loin. aller plus loin avec une discipline qui sera la philosophie première, d'une certaine façon, qui parle de l'étant tant qu'il est et qui parle également de l'étant divin, de l'être, à la forme divine de l'être. J'ai eu la chance, moi, que cette année-là sortait, effectivement, cette année en 66, l'agrégation, je l'ai passée, il y avait le livre de Auban qui venait de sortir, Aristote et le problème de l'être.
Le problème de l'être, chez Aristote, qu'on trouve aux presses universitaires de France,
toujours,
dans la collection Quadrige, qui est un livre remarquable.
Voilà, qui maintenant en collection de poche, il ne l'était pas à l'époque, mais ça veut dire qu'il a été réédité. C'est une bonne introduction à Aristote, et en plus, j'ai eu la chance, moi, de suivre les cours d'Auban à l'école normale. Et c'est un monde qui s'ouvrait, c'est-à-dire que jusqu'à présent, pour moi, je connaissais une langue philosophique grecque, c'était le platonicien, la langue platonicienne. Je pensais que c'était ça la langue philosophique. Or, il y a une autre langue qui s'appelle la langue d'Aristote et qu'il a fallu que je la réapprenne, effectivement, que je la retrouve, en tout cas, ça c'était un bonheur. La retrouver bien longtemps après pour m'engager dans ce projet un petit peu fou, faut bien le dire, un peu
irresponsable. De retraduire la métaphysique.
De retraduire l'ensemble de la métaphysique d'Aristote. Au début, il était entendu avec l'éditeur que ce ne serait que quelques livres. Et puis évidemment, quand on a commencé à retraduire la métaphysique d'Aristote, il faut aller jusqu'au bout. D'où le deuxième tome qui vient de sortir, la deuxième partie, jusqu'au livre, non pas Z, puisque la dernière lettre de l'alphabet grec n'est pas le Z, n'est pas le Zeta qui vient après l'epsilon, mais c'est le. Là en l'occurrence, ça s'arrête au livre nu. C'est pas Oméga, mais ça va jusqu'au livre nu. N.
Au livre nu, donc. Mais Bernard Sicher, quand même, il y a un paradoxe. Platon est un écrivain merveilleux, on a pu s'en apercevoir, nos auditeurs ont pu s'en apercevoir la semaine dernière, on consacrait une semaine entière à Platon, on put entendre des textes somptueux, des textes dont la saveur inégalée n'est pas égalée, me semble-t-il, par les textes d'Aristote. Aristote est plus difficile, l'ambiance n'est pas la même, l'écosystème n'est pas le même, l'impression générale n'est pas la même, et pourtant, Platon parle d'absolu constamment, alors qu'on a le sentiment qu'Aristote, lui, est en un sens, comme le montre le portrait de Platon et d'Aristote, l'école d'Athènes, plus soucieux de la réalité du praticable et des choses terrestres.
Oui,
est-ce qu'il
n'y
a pas un paradoxe
oui.
Là-dedans ?
Mais ça, c'est toute la question. Il faut toujours se rappeler qu'Aristote est resté 20 ans de sa vie dans l'école de Platon. Et tel que j'essaie de le comprendre maintenant, Aristote, après l'avoir traduit, parce qu'une fois qu'on l'a traduit, on est rentré dans sa langue. Il y a une langue d'Aristote. Elle est assez hérissée, mais elle est magnifique. C'est une langue de la pensée en train d'avoir lieu. Ça, c'est exceptionnel. Platon, c'est très composé. Là, vous assistez, c'est d'ailleurs un cas quasiment unique dans toute l'histoire de la pensée grecque. On a les leçons ésotériques. Les textes ésotériques étaient destinés, au fond, à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les thésards, si vous voulez, c'est les fins d'études. Les gens qui sont déjà passés par les degrés inférieurs et qui accèdent enfin à, on pourrait dire, la recherche de philosophie pure. C'est quasiment ça. Alors, on ne les a pas, les textes de philosophie ésotérique de Platon, les leçons ésotériques. On a les textes exotériques. Et ce qu'on appelle la métaphysique d'Aristote, Metataphysica, après la physique, ce sont des cours ésotériques. Et alors, ce qui est passionnant, c'est que c'est comme si on entendait Aristote parler en direct, si vous voulez. Ce sont des notes de cours. C'est pour ça que c'est si dur à traduire, parce que souvent, c'est elliptique. C'est quasiment en abrégé. Il faut reconstituer la phrase. Il faut, à plusieurs reprises, reconstituer le raisonnement. Et c'est pour ça, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ça nous a été, malgré tout, transmis. Tardivement, puisqu'on n'en trouve pas trace avant Nicolas de Damas, mais peut-être avant, en tout cas certains élèves l'avaient. Est-ce que c'est les notes de cours notées par Aristote lui-même ? Est-ce que c'est la récollection de notes qui ont été prises pendant ses cours par des élèves d'Aristote ? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est exceptionnel par rapport à Platon, c'est ça, c'est de la pensée en train de se formuler devant des élèves.
On a ça avec Plotin, par exemple. On retrouve ça où il met en scène des dialogues, comme un dialogue avec lui-même, qui est en fait un dialogue avec ses élèves, vraisemblablement.
Absolument. Mais ce qui est passionnant en plus, alors pour vous parler un petit peu du sens du concret qu'il y a chez Aristote, on voit bien qu'Aristote s'est mis à fonder son école et à donner ses cours-là à partir du moment où il a compris quelle était la limite du platonisme. Et comment on pouvait aller au-delà. Et là, il s'est dit, non pas j'ai ma philosophie à moi, il a dit, voilà, comment il faut maintenant avancer. Et donc, je ne serai sans doute pas l'héritier de Platon qui sera choisi. Effectivement, ça n'a pas été lui. Et donc,
la direction de l'académie.
Oui. Je fonde ma propre école. Parce que j'ai compris ce qui n'allait pas chez Platon et comment on pouvait le démontrer.
C'est ainsi que le lycée s'est distingué de l'académie.
Absolument. Et toute la métaphysique, c'est une explication avec Platon. Les platoniciens, effectivement, c'est plus Platon, c'est les successeurs de Platon, Speusippe par exemple, et puis une explication également avec les pythagoriciens. Et cette explication, elle va porter notamment sur ce qu'on appelle très mal la doctrine des idées, la doctrine des aïdés, c'est-à-dire que moi je traduis par figure, des visages ou des figures. Est-ce que les figures de ce qui existe, des choses qui existent, est-ce qu'elles sont inhérentes aux choses qui existent ou est-ce qu'elles existent par elles-mêmes en soi dans un autre monde, un monde qui est là-bas, Ekaïna, les choses qui sont là-bas au-dessus? Où est-ce qu'elles sont inhérentes? Et Aristote va dire, mais non, elles sont inhérentes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est la même chose pour les êtres mathématiques. Et c'est pour ça que la question des objets mathématiques, des entités mathématiques plutôt, c'est pas des objets, est fondamentale aussi, que ça se termine là-dessus, la métaphysique d'Aristote.
On est ici quand même au cœur du génie d'Aristote, oui, et de la difficulté d'Aristote, dans la mesure où, bien souvent, face à un discours métaphysique, un discours qui, en gros, pour le dire de façon très grossière, mais à dessein, sous-tend le sensible par un univers intelligible qui en dirait la vérité, qui justifierait par ailleurs les imperfections de son apparaître. Bien souvent, si on est nietzschéen, si on fait une lecture généalogique de cela, on peut dire qu'il y a une lecture morale possible de tout ça et qu'au fond, comme le blanc s'oppose au noir, l'intelligible s'oppose au sensible et que, de façon générale, dans la métaphysique, il y a une forme de dualisme moral qui justifierait la présence d'arrière-monde. Or, Aristote fait incontestablement de la métaphysique, mais en même temps, on ne peut pas penser qu'il y a chez lui un arrière-monde ou une arrière-pensée, en un sens.
Alors ça, c'est déjà la question du Dieu, en fin de compte. C'est pas le point central, je dirais, c'est le point vers lequel tout va converger. Toute cette discussion, elle va conduire à un moment donné à se prononcer sur la question du Dieu. Mais ce qui, effectivement, est le coup de génie d'Aristote, c'est déjà la physique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le cours qu'on appelle nous métaphysique, c'est le cours qui venait après le cours sur la physique.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que métaphysique désigne l'ordre chronologique des cours, c'est-à-dire c'est après avoir étudié la physique qu'on étudie la métaphysique, ou bien est-ce que ça désigne un au-delà de la physique, au sens où ça désigne des entités qui seraient au-delà de la nature?
Il y a eu une interprétation des platoniciens de ce titre-là, de ce titre tardif, qui n'est pas un titre d'Aristote, qui est un titre tardif donné sans doute aux alentours du 1er siècle avant ou du 1er siècle après Jésus-Christ, on ne sait pas trop, mais c'est l'interprétation du méta. Mais sauf que méta avec l'accusatif, c'est un terme extrêmement simple et clair en grec, ça ne veut pas dire au-delà d'eux, ça veut dire après. Et je pense que c'est un après qui est chronologique, mais qui est aussi logique, c'est-à-dire, et on le voit constamment dans les cours de métaphysique, il dit, eh bien, comme je l'ai montré dans la physique, Et donc toute la démonstration, c'est pas une démonstration, mais toute la manifestation de la nature de l'être de Dieu, elle suppose la physique, c'est-à-dire une doctrine du mouvement. Et ça, en effet, c'est le coup de génie d'Aristote, c'est-à-dire que tout chez Aristote repose sur une phénoménologie du mouvement. Et alors Heidegger disait, il avait raison, qu'est-ce que c'est la métaphysique? C'est une phénoménologie de la venue en présence. Comment quelque chose vient en présence? Et le verbe qui veut dire venir en présence, c'est un verbe très courant en grec, mais avec lequel d'ailleurs Aristote, qui est quand même un génie de la langue aussi, fait jouer toutes les formes verbales. Ça, c'est un truc tout à fait génial chez lui, c'est le verbe genestai. Gignestai, genestai, et notamment la forme du parfait. Mais c'est la question du mouvement. L'être se pense à partir du mouvement et de la manière dont par le mouvement quelque chose vient en présence, vient à accomplissement.
La difficulté à laquelle les commentateurs d'Aristote se heurtent depuis toujours, une sorte de double point de départ de la pensée aristotélicienne, dont on peut dire à la fois qu'elle se donne l'expérience pour point de départ, l'induction pour point de départ, et en même temps les principes premiers. Qu'est-ce qui, selon vous, Bernard Sicher, l'emporte? Je pressens la réponse néanmoins. Qu'est-ce qui l'emporte selon vous dans la démarche d'Aristote? Est-ce que c'est la saisie des principes premiers ou est-ce que c'est le fait d'aller par induction du particulier au général ou à l'universel? Comment est-ce que Aristote donc en vient à élaborer les principes de la science de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire la métaphysique? Comment s'y prend-il? Et derrière cette question se pose la question de Dieu, c'est-à-dire de savoir si, et on va en parler beaucoup aujourd'hui, si Dieu est transcendant transcendant ou s'il est immanent à sa création.
Alors ça, on va voir. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le vocabulaire transcendance-immanence soit un vocabulaire qui soit approprié pour rendre compte de ce dont il s'agit pour Aristote.
Vous contestez vraiment toutes les alternatives traditionnelles, transcendance-immanence, acte, puissance, etc.
Je le traduis autrement, ça je peux l'expliquer. Mais en tout cas, transcendance-immanence, je ne suis pas sûr que ce soit des termes d'ailleurs qui conviennent pour la pensée grecque. C'est des termes tardifs, c'est des termes médiévaux, et pas plus d'ailleurs que idéaliste, matérialiste. Ça, c'est des mots que je m'interdis maintenant d'employer. Je les ai employés beaucoup à tort quand j'avais entre 20 et 30 ans. J'étais marxiste à ce moment-là. Je croyais que je savais ce que ça voulait dire matérialiste et idéaliste. Non. Non, ça ne convient pas du tout. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'intuition fondamentale d'Aristote, quand je parle de venu en présence, ça vient en quelque sorte coaguler dans deux termes qui traversent tout ce texte-là. Ce texte passionnant et difficile, c'est le mot fusis, que j'ai eu beaucoup de mal à traduire, et le mot ousia, que j'ai décidé de traduire autrement que la tradition scolastique.
Revenons alors, originellement, fusis, il faut préciser ça, oui. Fusis, originellement alors, fusis, c'est nature, et ousia c'est l'essence.
Je n'ai pas traduit par nature, justement. Parce que fusis, il faut toujours penser le verbal en grec. Et Aristote, c'est quelqu'un qui pense à partir des formes verbales très concrètes. Fusis, c'est tout ce qui pousse. Tout ce qui pousse. Alors, tout ce qui pousse, c'est quoi ?
Ce qui pousse de soi-même.
Tout ce qui pousse à partir de soi et qui va éclore et puis ensuite dépérir. Ça naît, ça se développe jusqu'au maximum et puis après, ça meurt. Alors, c'est quoi ? C'est les plantes, c'est les animaux, dont l'homme d'ailleurs. C'est tout ça, la fusis. Et donc, c'est tout ce qui est en mouvement, mais qui a besoin pour venir au jour d'être mis en mouvement par un autre que soi. Et ça, c'est l'ensemble de la fusis. C'est l'éclosion fusis, en réalité. On ne peut pas traduire éclosion comme ça, mais j'ai traduit le règne. J'ai traduit tout ce qui est à partir de son propre règne. Mais on sait très bien que pour qu'un humain naisse, il faut qu'il naisse d'un autre humain. Voilà. Pour qu'une plante naisse, il faut qu'il y ait une graine, etc. Voilà. Et donc, c'est tout ce qui se meut, tout ce qui n'existe qu'à titre de mouvement et qui déploie son être. C'est comme ça que souvent j'ai traduit fusis. C'est ce qui déploie son être. C'est un verbe actif, Et alors le divin, c'est quelque chose qui va être pensé à partir de là, d'une certaine façon, mais c'est ce qui se déploie en étant toujours parfaitement soi-même. C'est ça qui est divin, c'est ça les dieux. Les dieux et les astres, puisque pour Aristote, qui est un bon grec de ce point de vue-là, tout ce qui est divin, c'est pas simplement les dieux qui sont individuels, c'est les astres. Ce qui fait que dans ce qu'on appelle la théologie d'Aristote, il y a une astrologie.
Une cosmologie également, oui. Dont il faut rappeler, tiens, très rapidement quand même les termes. Cosmologie très intéressante dans la mesure où, on en a un petit peu parlé hier d'ailleurs et on va en reparler cette semaine, dans la mesure où elle repose sur une séparation très forte qui est l'orbite lunaire. Oui. Il y a l'espace sublunaire qui est le nôtre, soumis au hasard, qui peut-être fait l'objet d'ailleurs de l'étude physique, soumis au hasard, également un espace qui ménage une possibilité de liberté, un espace suffisamment indécis finalement pour que l'on ne puisse pas tout en dire, et l'espace supralunaire qui, lui, obéit à la perfection des trajectoires astrales. Le paradoxe, juste un petit point là-dessus, Bernard Sicher, c'est que le paradoxe, c'est qu'à partir de cette cosmologie folle, enfin ancienne, antique, fausse, Aristote en déduit une anthropologie qui, elle, est d'une extraordinaire pertinence, puisqu'il en déduit la possibilité pour l'homme vivant dans l'espace sublunaire, et bien tout simplement d'agir, la possibilité, le devoir, d'agir sans référence à des valeurs absolues.
Oui. Alors, je ne sais pas, on peut dire qu'elle est fausse d'un point de vue scientifique, oui. Mais je ne dirais pas que ce n'est pas le premier critère que je retiendrai. Elle est vraie dans son ordre. Elle reste vraie dans son ordre. C'est-à-dire, elle est étayée par ce sentiment que les Grecs ont de ce qu'ils appellent cosmos, c'est-à-dire la belle harmonie de... on a envie de dire le tout, mais enfin, la belle harmonie de l'entier.
La belle harmonie de l'entier de l'être.
Il y a un entier de l'être qui précède les humains, qui précède les dieux, qui est plus vaste que les dieux, qui contient les humains, les animaux, les plantes, les astres et les dieux. Et cosmos, c'est ce qui contient tout ça. C'est la belle harmonie de l'ensemble.
S'il y a quelque chose d'éternel, d'immobile et de séparé, c'est évidemment à une science théorétique qu'en appartient la connaissance. Toutefois, cette science n'est assurément ni la physique, car la physique a pour objet certains êtres en mouvement, ni la mathématique, mais une science antérieure à l'une et à l'autre. La physique, en effet, étudie des êtres séparés, mais non immobiles. Et quelques branches des mathématiques étudient des êtres immobiles, il est vrai, mais probablement inséparables de la matière et comme engagés en elle. Tandis que la science première a pour objet des êtres à la fois séparés et immobiles. Maintenant, toutes les premières causes sont nécessairement éternelles, mais surtout les causes immobiles et séparées, car ce sont les causes des choses visibles parmi les choses divines. Il y a donc trois sciences théorétiques, la mathématique, la physique et la théologie. Nous l'appelons théologie, il n'est pas douteux en effet que, si le divin est présent quelque part, il est présent dans cette nature, immobile et séparée. Bernard Sicher est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, le philosophe Bernard Sicher, à qui l'on doit une traduction nouvelle de la métaphysique d'Aristote, à qui on doit également un livre intitulé « L'être et le divin » paru chez Gallimard dans la collection de l'Infini. Bernard Sicher, alors ça n'est pas votre traduction que je viens de lire, c'est la traduction Tricot à laquelle il faut rendre hommage, qu'on trouve chez Vrin, une traduction qu'on subit et pour leur bonheur parfois d'ailleurs beaucoup d'étudiants en philosophie. Comment peut-on être à la fois présent et séparé, Bernard Sicher ?
Alors ça, c'était notamment le point qui m'intéressait le plus dans le livre de Haubank. Mais qui en arrivait presque à un tragique aristotélicien, moi je n'irai pas jusque-là, à savoir le chorismos, qui en grec veut dire séparation, la coupure. La coupure entre ce qui est soumis au mouvement de la naissance, de l'éclosion, puis de la phtora, de la disparition, et puis ce qui est toujours parfaitement ce qu'il est, soit parce qu'il suit un mouvement circulaire, et que donc il revient constamment sur lui-même, soit parce qu'il est hors mouvement. Et ce qui est hors mouvement, ce sont, alors, il faut-il dire les dieux ou le dieu, là-dessus, c'est une grosse question, parce que le divin dont il s'agit chez Aristote, d'une part, c'est ce qui reprend un sentiment partagé, je dirais, par toute la pensée grecque, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une existence divine, alors, séparée de la nôtre, et pourtant... Et ça, c'est l'éthique. Mais l'éthique, je dirais, chez Aristote, quand on a lu la métaphysique, on voit qu'elle découle de l'ontologie. On est dans une pensée ontologique, on est dans une pensée de l'être. Et donc, y compris ce que nous appellerions, nous, la morale, en tout cas l'éthique, elle découle, elle est une conséquence de l'ontologie, elle se pense dans le régime de l'être. Alors, il y a un régime d'être, c'est souvent comme ça que j'ai traduit Fucis aussi, il y a un régime d'être de l'être humain qui est séparé du divin. Sinon, on est dans l'hubris, n'est-ce pas ? On est dans l'outrance.
L'hubris, la démesure ou l'outrance ?
La démesure, ouais. L'outrance, hein, l'outrance. On sort de sa fucis, on sort de ce pourquoi on est fait. Mais si on veut l'éviter, il faut néanmoins se rapprocher autant qu'on peut de l'existence divine.
L'éviter, je précise que vous l'écrivez L apostrophe.
Oui,
ici, hein. Allez-y,
voilà,
pardon.
Absolument. Se rapprocher autant que possible de l'existence divine, bien que ça ne nous soit pas permis. Et donc, il y a un art de la mesure, et on pourrait dire qu'ici, l'art de la mesure est à la philosophie, ce que la démonstration de la démesure est à la tragédie. Comment fonder une éthique qui ne soit pas une éthique tragique, mais qui suppose par ailleurs qu'il y a la tragédie ? On sait par exemple qu'Aristote, à la différence de Platon, adorait la tragédie, que d'ailleurs on lui en faisait reproche, dès qu'il avait quitté les cours de Platon, il se précipitait pour aller assister aux tragédies.
Oui, il y a chez Platon un rapport justement à l'œuvre tragique, qui est un rapport en un sens moral, qui se méfie au fond des mauvaises choses qu'on peut montrer.
Il la critique pour des raisons philosophiques.
Il y a chez Aristote une approbation de la tragédie, au sens, en un sens pour les mêmes raisons d'ailleurs, dans la mesure où, mais seulement chez Aristote, le fait de montrer les turpitudes des hommes a des effets vertueux sur les spectateurs, alors que Platon a plutôt le sentiment qu'on dévie dans l'éducation qu'on leur doit.
Platon, oui, parce que Platon insiste davantage sur la mimésis et Aristote, plutôt au contraire, sur le caractère distanciateur, au fond, de l'effet tragique. Il y a toute une analyse de l'effet tragique qui est très intéressante chez Aristote. Mais c'est lié à des choses très simples, à savoir Aristote adore la tragédie, semble-t-il, Platon pas tellement. Voilà, mais on ne va pas faire de la base psychologie quand même. Mais il y a quelque chose de cet endroit-là qui rend Aristote sympathique. Voilà. Alors, on parlait du divin et de la séparation. Il y a une séparation. C'est-à-dire, il y a les hommes d'un côté, les dieux de l'autre. Il y a la terre d'un côté, le ciel de l'autre. Hein, c'est ce que Heidegger appelle le Gewicht, c'est-à-dire le jeu des quatre. Mais en même temps, ce qui est tout à fait frappant chez Aristote, c'est qu'il y a plusieurs polarités dans la définition du dieu. Il y a une polarité qui est celle de la séparation. À savoir, c'est une démonstration à partir du mouvement, qui suppose la physique. D'ailleurs, le dernier livre de la physique, c'est une anticipation du livre lambda dont on parle, de la métaphysique. Vous voyez bien qu'il faut lire la physique avant, parce qu'ensuite on comprend quelle est la démarche qui conduit au-delà de la physique, mais qui repose sur la physique. C'est il faut bien qu'il y ait un premier qui mette en mouvement. Et ça, c'est aussi le côté, je vais vous étonner, je dirais presque, c'est le côté proustien de la métaphysique d'Aristote. C'est qu'on a constamment des petites annonces de ce qui va être dit dans le livre lambda. Il faut bien qu'il y ait un premier mouvement. Un premier qui mette en mouvement, j'ai traduit pour que ça soit plus clair. Il faut bien qu'il y ait un premier qui mette en mouvement, qui ne soit pas lui-même en mouvement.
En d'autres termes, le livre lambda, c'est le livre du temps retrouvé.
C'est le livre de la... Oui, c'est, si on veut, d'une certaine façon. Enfin, c'est ce vers quoi on va s'acheminer par petites notes, des petites notes mélodiques comme ça qui apparaissent régulièrement en disant, il y a forcément un être qui existe et qui est séparé. Et puis, où il faut bien qu'il y ait un premier mouvement. Et on arrive au livre lambda qui va en tirer les conséquences. Mais c'est bien préparé aussi par cette trinité des livres Zeta et Tateta qui précède le livre lambda, qui l'annonce d'une certaine façon. Il y a une espèce de mouvement qui a l'air de rien comme ça. Et c'est pour ça que c'est passionnant. On a l'impression que c'est un mouvement d'explication avec des élèves qui est ardu, mais on donne des notes annonciatives comme ça de ce qui va arriver. Alors il y a l'aspect, effectivement, un dieu qui est séparé parce que lui est hors mouvement. Étant hors mouvement, ce dieu-là, il est clair qu'il est pensé à partir de la physique. Ce n'est pas un dieu qui nous parle. Ce n'est pas un dieu vis-à-vis duquel on puisse avoir des affects. Ça, c'est très important. Hein. Et là, je dirais, c'est ce que Heidegger a dit. C'est l'entrée de Dieu dans la philosophie, vraiment, chez Aristote. C'est le dieu d'Aristote. C'est un dieu qui n'a pas de contact avec nous. C'est un dieu, le premier qui met en mouvement, ce n'est pas quelqu'un. Par contre, il y a une deuxième polarité, un deuxième accès au divin, c'est de le penser comme quelqu'un, faut-il dire quelqu'un, c'est très, très difficile d'ailleurs, comme une puissance première, hein, c'est comme ça que j'ai traduit en général Arché, une puissance initiale qui pense et qui nous conduit vers elle, qui conduit vers elle notre désir. On aspire à se rapprocher d'elle. Et là, il y a quelque chose comme un mouvement qui est vivant, des hommes vers Dieu. C'est-à-dire que c'est notre pensée et notre désir qui nous orientent vers celui qui est la première pensée et le véritable objet du désir.
Plus exactement, vous avez parlé d'un mouvement vivant, Bernard Sicher. On pourrait peut-être parler, du point de vue des Grecs et d'Aristote, comme de Platon d'ailleurs, comme de Plotin, encore une fois, du mouvement qui est celui de la vie elle-même. La vie entendue au sens non mortifère de l'existence, mais exactement la vie d'un être qui, au lieu de se contempler lui-même ou au lieu de déchoir dans le sensible, se tourne vers le principe dont il procède.
Ah, vous avez tout à fait raison. Et c'est à ce moment-là qu'il va définir Dieu, le Dieu, c'est au singulier, au théos. Alors, au théos, il n'a pas d'autre nom que au théos. Ça, peut-être aussi, c'est vraiment, Heidegger doit avoir raison, c'est le commencement de la conception philosophique de Dieu, sur laquelle, au fond, la théologie chrétienne va ensuite se construire. Ça sera un dieu personnel, évidemment, chez les chrétiens, mais dans la mesure où ils vont récupérer une partie de la pensée grecque, ce dieu, il va être défini en termes philosophiques aussi. Hein. Eh bien, ce dieu est une existence, zoé. Mais existence, ce n'est pas au sens existentialiste. Hein, ça n'a rien à voir avec l'existentialisme. Zoé, c'est tout ce qui est en vie. Eh bien, le dieu, il est forcément en vie aussi. Mais simplement, sa vie, elle est dans un accomplissement encore plus parfait que la nôtre. Voilà, c'est ça qui est dit. C'est une vie et c'est une pensée. C'est une vie pensante. Ça, c'est extraordinaire de dire que Dieu pense. Les Grecs n'avaient jamais dit comme ça que Dieu pensait. Ils avaient des pensées, effectivement, chez Homère. Mais dire que Dieu, il pense et qu'il est même la pensée de la pensée, une pensée qui se pense elle-même, ça, c'est un truc qui va complètement fasciner les théologiens chrétiens.
Et que nous-mêmes, en pensant, participons du divin, Bernard Sicher.
Oui, absolument.
Alors, il y a plusieurs questions là. D'une part, peut-être remarquer que la métaphysique d'Aristote donne sa loi, crée une norme qui sera celle ensuite de bien des projets philosophiques où l'ordre d'exposition n'est pas l'ordre véritable. Chez Descartes, par exemple, hein, on commence par le cogito pour en venir à Dieu qui, en réalité, est au principe du cogito par lequel on a commencé. Il y a chez Aristote, de la même façon, toute une démarche expérimentale qui culmine avec le livre lambda de la métaphysique, dans le lequel on en vient au principe qui, en réalité, gouvernait rétrospectivement la démarche qu'on a conduite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'il n'y a pas, dans cette difficulté, d'une transcendance qui serait contrariée en même temps par le régime de la présence, quelque chose qui renverrait bien plus tard aux impasses cartésiennes, par exemple, du corps et de l'esprit qui sont à la fois séparés, différents en nature, et dont pourtant il faut penser l'interaction. Quant à la troisième question, je la réserve pour après.
Bah, ça fait déjà deux grosses questions.
Mais justement, c'est pour ça.
La première question,
l'ordre d'exposition.
Ça, vous avez complètement raison, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'Aristote est quelqu'un, mais c'est la même chose chez Platon, d'une certaine façon. On pense, si on prend le langage de Hegel, on dira qu'on a toujours le point de vue du « pour nous » et pas le point de vue du « en soi ». Le point de vue du « en soi », on ne peut pas y accéder comme ça. Justement, ça, c'est la conscience que les Grecs ont de la finitude. Les hommes eux-mêmes sont dans l'être. Ça, c'est une pensée qu'on a du mal à voir aujourd'hui, surtout depuis le cogito cartésien et depuis le fait qu'on pense que tout doit être amené à l'homme et à la pensée de l'homme. Mais pas du tout. L'homme, il est dans l'être. Quand on parle de l'être qui n'est pas seulement l'étang, c'est ça que ça veut dire. L'homme, il est dans l'être. C'est un étang parmi d'autres étangs. Et donc, sa pensée à lui, c'est la pensée d'un petit étang très particulier qui a une supériorité sur tous les animaux, sur tous les vivants, sur tous les zoas. C'est qu'il a le nous. Il a la pensée. Il a la pensée parce qu'il a le logos. Pensée, parole, c'est absolument lié. L'homme, il est parlant. Il a le don de la parole, c'est ça qui le fait penser. Alors donc, c'est un animal très particulier. Et donc, il est capable même de penser au Dieu. Il est capable de penser en direction
du divin.
C'est-à-dire
de surmonter sa finitude,
oui,
en se tournant.
Pas de la surmonter, mais il a, ça je reprendrai le mot de Heidegger, il est ouvert à l'ensemble de l'être, à l'entier de l'être, y compris à la dimension divine de l'être. Et comment ? Alors c'est là que il n'y a pas de séparation esprit et corps, parce que le logos et le nous, ça suppose toujours un corps. Si l'homme est fini, c'est parce que son corps est un corps de zoon, d'animal. Il a un corps d'animal.
Et il n'y a pas chez Aristote, Bernard Siger, juste oui. Un point, il n'y a pas chez Aristote cette idée, pour le coup typiquement platonicienne, que l'âme serait dans le corps comme dans un tombeau.
Ah, pas du tout, pas du tout. D'autant que pour les Grecs qui ne sont pas philosophes, il faut toujours penser que les philosophes, ils pensent à partir de ceux qui ne sont pas philosophes. Ils sont aussi des non-philosophes au départ. Et ils pensent en direction de gens qui ne sont pas forcément des philosophes. Le sentiment commun des Grecs, c'est que les astres sont des corps parfaits. Et les dieux sont des corps parfaits. Les dieux ont des corps. Nous, on ne comprend pas très bien cette histoire. Mais s'il y a des aventures de Zeus, s'il n'arrête pas de se déguiser pour aller séduire les mortels, c'est bien qu'il a un corps, sauf que c'est un corps immortel. Il a un corps immuable.
Oxymore.
Peut-être, pour nous. Pour nous, pas pour les Grecs. Il a un corps parfait. Il a un corps parfait qui peut même lui permettre d'aller faire des bêtises avec des mortels. Donc, les astres sont des corps aussi, hein, ce sont des somas. Il y a des corps, mais c'est des corps qui ne sont pas soumis à la règle de la naissance et de la corruption.
Il y a un philosophe, c'était ma troisième question, celle que je réservais, enfin le meilleur pour la fin en l'occurrence, un philosophe qui ressemble peut-être de près à Aristote à plusieurs égards. Vous avez dit que l'ontologie d'Aristote, c'est-à-dire son discours sur l'être, déterminait son éthique. Qu'en somme, il fallait physique,
oui.
Métaphysique, éthique à Nicomaque, disons. Le lire dans cet ordre-là. Donc, l'ontologie détermine l'éthique. Il y a une divinité qui, toute existante, est en elle-même toute activité, toute mise en mouvement. Et enfin, il y a l'idée que, en pensant, nous-mêmes, nous saisissons ce qu'il y a de plus divin en nous, et par là même, nous sommes capables, dit Aristote, de saisir la substance des choses. Or, il y a un philosophe qui permet de penser tout cela également, c'est Spinoza. Bernard Sicher, Spinoza, dont le Dieu existe avec la même nécessité qu'il agit, dont toute l'ontologie débouche sur l'éthique, qui dit que nous participons de l'entendement infini de Dieu, mais Spinoza a cette différence près d'Aristote, il y a une différence entre Spinoza et Aristote, il y en a plusieurs, mais il y en a une notamment, c'est que Spinoza, lui, n'hésite pas à partir de Dieu, pour le coup.
Oui, ça certainement, ça choquerait énormément Aristote, parce que il le dit d'ailleurs dès le livre Bêta, s'il y a une science du divin, elle ne devrait appartenir qu'à Dieu lui-même, c'est-à-dire que Dieu, et le Dieu est deux choses, il est à la fois ce qu'il y a de plus divin, Et il est aussi celui qui détient le savoir du plus divin. On n'a pas le savoir du plus divin. On peut par contre bâtir des hypothèses. Et c'est là qu'on voit le seul usage vraiment important qu'Aristote va faire de la... Aristote est un mathématicien hors pair. C'est pour ça d'ailleurs que la traduction des livres Mu et Nu, j'ai dû me faire aider, parce que c'est une complexité remarquable. Et ça nous montre d'ailleurs le caractère un petit peu fou de la mathématique grecque quand elle devient philosophique. Bon. Chez Platon, notamment, probablement dans l'enseignement ésotérique de Platon, dont on n'a pas de traces, par contre, malheureusement.
Quelques bribes, justement,
voilà,
quelques éléments.
On reconstitue à travers des commentateurs qui nous ont transmises et des choses qu'on sait avoir eu lieu, mais dont on n'a pas de traces précises. C'est l'idée qu'il y a une science qui va faire partie de la théologia. Théologia, c'est la science de tout ce qui est divin. Et donc, eh bien, il y a une partie de cette théologia qui s'appelle l'astrologia. C'est parce que l'astrologia, c'est ce qui nous rapproche le plus, nous humains, de ce qu'on peut savoir des êtres divins. Mais on va construire des hypothèses mathématiques. C'est tout ce qui est dans le livre Lambda. Il y a un chapitre entier, une partie entière du livre Lambda qui est consacrée aux théories astrologiques. Et il dit, ben voilà, moi j'en sais pas plus, c'est d'ailleurs très vivant, il dit, il faut faire confiance à ceux qui sont les spécialistes, moi je suis pas un spécialiste, voilà ce que pense Dox, voilà ce que pense un autre, je crois que le calcul des sphères, etc., c'est extrêmement compliqué, ça montre à la fois le raffinement de l'outil mathématique et le fait qu'Aristote le tient à distance, l'outil mathématique, il dit, ce sont des hypothèses.
Ça montre aussi qu'Aristote n'est pas seulement philosophe, mais qu'il est également historien des idées, puisque
c'est
grâce à Aristote qu'on retrouve, c'est dans l'œuvre d'Aristote qu'on retrouve beaucoup d'informations, notamment sur ce qu'on a appelé les présocratiques.
Voilà, qu'on ne sait que grâce à lui d'ailleurs, parce qu'il est le premier qui invente l'histoire de la philosophie, pour se citer lui-même, en disant voilà ce que je dois à Anaxagore, à Empédocle, ceux qui préfèrent, c'est Empédocle notamment, Héraclite aussi beaucoup, et puis il y a une désinvolture dans la façon de parler d'eux qui s'explique que parce que c'était des cours donnés certainement à des intimes, donc il dit, oui, bah, Héraclite, on dit qu'il a dit ça, mais peut-être que quand il a dit ça, probablement qu'il parlait sans savoir lui-même ce qu'il disait, enfin c'est assez, plein de désinvolture et d'humour, il y a beaucoup d'humour chez Aristote aussi.
Alors, il y a beaucoup d'humour chez Aristote, il y en a beaucoup moins chez ceux qui parfois l'ont revendiqué en le tronquant, en le trahissant. C'est notamment l'hypothèse d'Umberto Eco dans Le Nom de la Rose, très beau livre qui a donné lieu à un très beau film, dont on va entendre d'ailleurs tout de suite un extrait, puisque l'objet du film,
c'est la poétique,
c'est de mettre la main sur
la poétique.
De mettre la main sur le deuxième livre, le livre perdu de la poétique. Voilà une hypothèse magnifique.
Cela fait déjà plusieurs jours que je m'attends à ta visite, Guillaume.
Il vous a fallu des ailes pour arriver ici avant nous.
Que veux-tu exactement ?
Je veux voir un livre grec qui, selon vous, n'a jamais été écrit. Un ouvrage entièrement consacré à la comédie que vous haïssez, autant que vous haïssez le rire. Je veux voir ce qui est probablement le seul et unique exemplaire du second tome de la poétique d'Aristote.
Il y a beaucoup de livres qui traitent de la comédie. Pourquoi celui-ci vous inspire-t-il si grande peur ?
Parce qu'il est Aristote.
Mais qu'y a-t-il de si inquiétant dans le rire ?
Le rire tue la peur. Et sans la peur, il n'est pas de foi. Car sans la peur du diable, il n'y a plus besoin de Dieu.
Mais vous n'éliminerez pas le rire en éliminant ce livre.
Non, certes. Le rire restera le divertissement des simples. Mais qu'adviendra-t-il si, à cause de ce livre, l'homme cultivé déclarait tolérable que l'on rit de tout ? Pouvons-nous rire de Dieu ? Le monde retomberait dans le chaos. Ainsi donc, je scelle ce qui ne devait pas être dit. Dans la tombe, que je deviens.
Come on down. I hear you.
Le philosophe Bernard Sicher est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour parler d'Aristote. Ce mardi, Bernard Sicher, à qui l'on doit notamment une traduction nouvelle de la métaphysique d'Aristote chez Pocket. Bernard Sicher, la saveur d'Aristote lui vient de sa capacité à commenter les choses les plus triviales, à parler des choses les plus ordinaires, d'objets qui sembleraient aux platoniciens que nous sommes tous un peu indignes en un sens à l'appréhension ou à la saisie philosophique. Est-ce qu'en même temps l'œuvre d'Aristote n'est pas déjà tout entière traversée par la nostalgie d'un... Pardon d'employer des termes peut-être anachroniques, mais d'un rapport authentique à l'être, d'un rapport au monde, à l'être qui ne serait pas biaisé ou médié, soit par les outils de l'intelligence, soit par la nécessité de vivre, soit tout simplement par l'invention de la technique.
Je crois que ce qui est très important pour Aristote, on le voit, comment est-ce qu'il construit sa pensée ? Il construit, donc c'est le premier, qui construit au fond une ascendance philosophique. Et c'est, vous disiez à l'instant que c'est grâce à lui qu'on connaît beaucoup de penseurs qu'on appelle bizarrement chez nous présocratiques, alors qu'évidemment les Grecs ne les considéraient pas comme des présocratiques, mais comme des penseurs au fond, moi je les appelle des penseurs matinaux à un moment donné. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Aristote se réclame à la fois de ceux qu'il appelle les physicoi. Alors, si on traduit les physiciens, source de malentendus, ceux qui ont parlé de la physis avant lui, et qui sont justement ceux qui ont réfléchi sur les éléments premiers du cosmos, c'est-à-dire Anaxagore, c'est-à-dire Héraclite, c'est-à-dire Empédocle. Et en même temps, ceux qu'il appelle les théologoi. On revient sur la question de la théologie. Et théologoi, c'est quoi ? C'est tous ceux qui ont parlé des dieux, tout simplement. Et par exemple, Hésiode. C'est-à-dire ceux qui sont antérieurs à la séparation entre l'étude du divin, nous on dirait le religieux, mais ce n'est pas tellement le religieux en question. Hein, c'est plutôt ceux qui sont dans le mutos, hein, les fabricants de mutos, les fabricants de fables, de légendes, et puis de légendes sacrées. Et puis ceux qui sont, à proprement parler, ceux qui ont étudié à la physis, les éléments matériels. Et ils se réclament des deux. Beaucoup plus que, évidemment, ceux qui sont ses ennemis sont d'une part ceux qui sont les mathématiciens purs. Il dit aujourd'hui, ah, c'est très, très rigolo quand on le lit, on dit bah, ceux d'aujourd'hui, eux, ils ne s'intéressent plus à la physis, ils s'intéressent qu'aux nombres. Et pour eux, on peut tout déduire à partir des nombres.
Eh oui, tout se perd. Tout se perd.
Voilà, tout se perd. Aujourd'hui, on ne gère plus que par la mathématique. Bon, eh ben, il faut revenir quand même aux choses concrètes. Et les choses concrètes, il y a un signe de ça, c'est qu'Aristote, par exemple, a beaucoup écrit sur les animaux. C'était un entomologiste hors pair. Il s'est intéressé énormément à la vie des petits animaux, des insectes, etc. Il y a beaucoup de traités de lui. Et il faut se souvenir qu'il était de la famille des Alcméonides, c'est-à-dire une sorte de famille aristocratique qui avait accès à la médecine. La médecine était un art supérieur, il fallait être d'une grande famille, et il était une famille de médecins. Et d'où la référence constamment d'ailleurs à des exemples médicaux dans la métaphysique d'Aristote. Alors pour autant, je ne dirais pas que Platon est quelqu'un qui méprisait les choses corporelles. Je crois que c'est un lieu commun qui s'est bâti plus exactement à l'intérieur du christianisme. Ça, c'est une légende. Le Platon qui méprise le corps. Souvenez-vous que Socrate nous dit, mais oui, il y a une idée, il y a une eidos, même du cheveu.
Oui, du poil, de la crasse. Ça, c'est dans le Parménide.
Dans le Parménide. Même de la crasse, même du poil, il doit y avoir un eidos. Et les gens disent, comment tu dis ça, c'est affreux, etc. Je crois que Platon s'est défendu d'avance contre cette accusation extrême d'être quelqu'un qui méprise le corps grâce à l'ironie de Socrate. Il a inventé le personnage de Socrate.
Mais dans le même temps, Platon est celui qui, accomplissant le parricide qu'il dit être le sien, hein, oui. Coupant la tête de son père spirituel, Parménide en l'occurrence, comme il le fait avec Homère d'ailleurs, Platon est celui qui s'en prend à tous ceux qu'on peut appeler, non pas les inséparables, mais les inséparants. Ceux qui refusent finalement de séparer, non pas peut-être les univers, mais d'introduire de la négativité dans
le
monde.
Alors, il y a une polarité, moi je parle en termes de polarité, il y a une polarité chez Platon qui est la polarité, il faut fuir ce monde, etc. Et il y a l'autre polarité qui est tragique, c'est il faut au contraire redescendre, on a une mission philosophique, mais on risque d'être mis à mort.
C'est quand même sortir de la caverne à ses risques et périls.
Absolument, on oublie toujours. Moi, j'ai comme vous, sûrement, j'ai commenté avec des élèves, des étudiants, le mythe de la caverne. On oublie toujours qu'il faut redescendre dans la caverne, il ne faut pas rester là-haut. Et donc ça donne quand même la juste mesure de la conscience que Platon avait, peut-être aristocratique, mais dans ma bouche c'est pas forcément un mot mauvais, que c'est effectivement seule une élite accède à la vérité philosophique, mais il faut toujours redescendre parce qu'on est des humains.
Est-ce qu'Aristote, tout à son enseignement, tout au caractère transmissible et intelligible de son enseignement, ne commet pas le péché, si j'ose dire, de ne s'adresser précisément qu'à cette élite, c'est-à-dire de ne pas prendre soin, comme Platon l'a fait, avec les mythes notamment, d'étendre la parole philosophique à ceux qui, a priori, n'avaient pas accès à elle?
Alors, moi, j'ai envie de vous dire deux choses là-dessus. D'une part, il faudrait se représenter un peu concrètement ce que c'était que les écoles de philosophie. C'est pas tout le monde. Et là, on a ceux qui sont en thèse, je vous disais exprès pour prendre un exemple d'aujourd'hui. Donc, ceux qui sont les meilleurs, qui sont arrivés au bout du cursus. Ceux qui sont arrivés au bout du cursus, on peut leur parler comme Aristote le fait. Moi, j'ai essayé de parler un petit peu d'Aristote.
Je fais juste une parenthèse. Oui, oui, oui. Platon, on peut le lire en terminale. Aristote, oui. Non.
C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai du tout. Vous pouvez absolument commenter certains traités de la physique d'Aristote et en tout cas l'éthique à Nicomaque, tout à fait.
Oui, oui, l'éthique à Nicomaque, oui. Non, je parlais de la métaphysique. Vous
mais
avez
la
raison.
Métaphysique, c'est pas fait pour les terminales. Hein. La métaphysique, c'est fait pour ceux qui ont déjà mordu à la philo, qui veulent continuer, ceux qui veulent s'accrocher au texte. Il faut s'accrocher en philo. Tout n'est pas accessible tout de suite. Mais la métaphysique, moi, j'ai fait l'effort quand même de la traduire, j'espère, de manière claire, qui fait qu'il n'y a pas de barbarisme dans ma traduction. C'est-à-dire que on peut avoir l'illusion peut-être dangereuse, mais qu'au fond, c'est assez facile à comprendre. Alors, une fois qu'on a... Je ne voulais pas avoir une traduction hérissée. Tricot, c'est illisible pour le commun des mortels, à mon avis. C'est-à-dire, c'était fait uniquement pour les étudiants de philo. Ma traduction, elle n'est pas faite pour les étudiants de philo. Elle est faite pour n'importe qui s'intéresse à la philo et qui veut savoir, mais qu'est-ce qu'il y a donc dans la métaphysique d'Aristote? Qu'est-ce qu'il dit sur Dieu? Et donc, effectivement, j'ai enlevé tout ce vocabulaire scolastique qui était, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de causalité. J'ai essayé de revenir au côté très vivant de la langue d'Aristote. Par exemple, Lucia, je prends l'exemple d'Ousiane.
Qui est un terme clé de la métaphysique d'Aristote.
Ça par essence. C'est-à-dire que les scolastiques sont allés chercher un mot latin qui est inventé à peu près à l'époque de Sénèque, à partir du verbe être en latin, qui est le verbe esse, on a inventé essentia en latin, alors qu'en grec, ousia, c'est un mot courant, c'est un mot de la langue non philosophique, ça veut dire ce qui est solide, ce sur quoi on peut compter, une propriété, un bien. C'est ça une ousia.
Vous me disiez, avant cette émission, voilà, vous me disiez que l'équivalent espagnol de ce terme, c'était essentia.
Absolument, mais moi j'ai traduit présence tout simplement parce qu'il y a deux autres substantifs en grec. Il y a parousia, c'est ce qui vient en présence, apousia, ce qui se retire de la présence. Et donc c'est vraiment présence.
Rendre Aristote donc à sa simplicité.
J'ai essayé.
Et par là même le rendre plus accessible à tous. Merci Bernard Sicher d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Merci donc Bernard Sicher d'être venu nous parler. Et alors évidemment, comme toutes les bonnes conversations en philosophie, cette conversation s'achève à l'instant même de commencer. Je renvoie l'auditeur à L'être et le divin, votre livre chez Gallimard dans la collection L'Infini. Et je le renvoie également, donc ça changera de tricot, à votre traduction de la métaphysique parue chez Pocket.
Restless wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe.
Je renvoie également l'auditeur au dictionnaire Aristote paru chez Ellipse sous la houlette de Pierre Pellegrin. Il est 10h50 sur France Culture. On retrouve tout de suite avec joie le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Alors, dans un esprit d'à-propos remarquable, je dois dire, j'ai parlé de Pierre Pellegrin et c'est son épouse que vous recevez aujourd'hui.
Et oui, bonjour à tous. On passe de Dieu aux femmes à l'occasion de la publication chez Flammarion d'une anthologie d'écrits féministes. Anthologie qui rassemble des textes de femmes célèbres, de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir, qui militent à leur façon, entre le 15e et le 20e siècle, pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces textes sont réunis et présentés par l'historienne Nicole Pellegrin, donc, qui vient nous en parler aujourd'hui. Bonjour Nicole Pellegrin.
Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous.
Alors ce qui est frappant à la lecture de ces textes, c'est la diversité des formes d'expression, de revendications féministes au sein de ces textes. Diversité à la fois des contextes dans lesquels ces textes sont écrits, diversité des supports, on a à la fois des articles, des essais philosophiques, différentes formes de correspondance également, diversité des arguments utilisés. Et cette diversité reflète un parti pris de ce livre, Nicole Pellegrin, qui est celui d'insister sur le caractère individuel et donc singulier de ces réflexions, et donc de ne pas tenter de dégager ce qui serait un courant féministe unique et homogène. Nicole Pellegrin.
Alors, je suis très heureuse de votre lecture parce que c'est effectivement un des points centraux de ma démonstration, de montrer qu'il y a toujours eu des féminismes d'une part et d'autre part montrer, c'est le deuxième point de ma démonstration ou de ce que j'ai tenté de faire, une très grande ancienneté de ces féminismes. Alors, ancienneté, comme vous l'avez dit, des supports, parce qu'on a les femmes de ma génération, surtout en tête, les tracts, les banderoles, les affichettes, les manifestations de rue, qui ont été à une certaine époque notre quotidien. Mais tout ça a été alimenté par des réflexions et notamment une déthéorisation multiple et très ancienne. Et donc, il faut, je crois, refaire l'archéologie de cette théorisation pour deux raisons. Rendre visibles les femmes, les hommes aussi féministes qui ont pensé à côté d'elles et avec elles. Et aussi parce que peut-être nous vivons une époque où il y a un déficit de théorisation en général, dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine du féminisme. Et un retour en arrière, c'est l'historienne évidemment qui parle, n'est pas inutile, me semble-t-il. Voilà.
Et le retour en arrière va très loin, puisque je l'ai découvert en lisant ce livre. Un des premiers textes, que peut-être féministe, en tout cas le premier texte que vous mettez dans ce recueil, c'est un texte de Christine de Pizan, qui date du tout début du 15e siècle. Oui. On est en 1405, je crois, pour la publication du livre de la Cité des Dames.
Alors, Christine de Pizan fait l'entrée en matière de ce livre pour au moins deux raisons. C'est une immense écrivaine, point à la ligne, faut la lire. C'est une poétesse, c'est une historienne, c'est une philosophe. Et tous ses écrits, dont la diversité saute aux yeux, donc elle écrit de la prose aussi bien que des vers, tous ses textes sont infusés par une sorte de revendication, je reviendrai sur le thème, revendication autour de l'égalité des hommes et des femmes. C'est une contemporaine de Jeanne d'Arc. C'est une femme qui est sans doute la première femme de lettres à avoir vécu de sa plume, et d'ailleurs peut-être le premier des êtres humains nés dans ce foutu pays qu'est le nôtre à avoir vécu de sa plume. Donc elle est à de multiples égards une femme immense. Alors si on revient à ses écrits féministes, ils sont aujourd'hui très largement oubliés, sauf par les spécialistes, mais elle a la malchance d'avoir vécu à la fin du Moyen-Âge, donc elle ne fait pas partie des anthologies de la littérature médiévale parce qu'elle est un peu trop tard, elle ne fait pas partie des anthologies modernistes parce qu'elle est un peu trop tôt, bref, elle est tombée dans l'oubli. Mais il peut être intéressant de rappeler que dans les manuels de littérature de la fin de la Troisième République, en tout cas dans les années 1900, elle figurait. C'est la raison pour laquelle le petit passage que j'ai fait publier dans cette anthologie, c'est en fait une copie d'un passage d'un manuel pour le cours supérieur des filles.
Oui, ce passage s'appelle « À ceux qui disent qu'il n'est pas bon que femmes apprennent lettres ».
Voilà. Alors, l'intérêt de ce texte et de Christine de Pizan en général, c'est une des premières à avoir éclairé de façon très très pertinente la revendication féministe majeure pour l'hier comme pour l'aujourd'hui, si on sort du domaine occidental, qui est la revendication d'une éducation non sexiste pour les filles. Alors, éducation, premier point, et deuxièmement, de sexiste, non sexiste. Par ailleurs, Christine de Pizan, elle a l'intérêt, l'étrangeté à nos yeux aujourd'hui, d'écrire une cité des dames. Ce texte est inscrit dans ce qu'elle appelle la cité des dames, qui est un long traité mi-historique, mi-philosophique, qui, sur le mode allégorique, essaye d'imaginer comment les femmes pourraient obtenir ce à quoi elles ont droit. Et elle le fait autour des figures du passé, en prouvant puisqu'il y a eu de grandes impératrices, de grandes philosophes, Aspasie figure à côté de Sainte-Hélène ou d'autres personnages de ce type. La force de Christine de Pizan, c'est de construire à partir des figures du passé une défense des femmes. Et c'est à prendre le mot défense au sens fort, puisqu'elle imagine citadelle, la cité des dames, dans laquelle les femmes pourraient retrouver, ou trouver plus exactement, leur liberté. Et la citadelle qu'elles doivent construire, chaque pierre, c'est une femme du passé. Mais évidemment, c'est sur le mode de la plainte, c'est sur le mode de l'imaginaire. Elles rêvent de cette cité pour les femmes, et donc on n'est pas dans les revendications telles qu'elles ont pu être exprimées, évidemment, plus récemment. Mais le droit à l'éducation y figure, mais aussi le refus des mariages arrangés, mais il y a des passages magnifiques contre le viol, contre donc la maîtrise de son corps par les femmes. Donc on pourrait faire une lecture anachronique de Christine de Pizan et ce que cette anthologie souhaite faire à propos d'elle et à propos d'autres textes d'hommes et de femmes féministes, c'est de contextualiser. C'est-à-dire qu'on peut trouver des thématiques identiques, mais en même temps des formulations autres.
Merci beaucoup, Nicole Pellegrin. Donc, cette anthologie que vous avez présentée et regroupée, ça s'appelle donc Écrits féministes de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir. Et on trouve ça chez Flammarion. Merci beaucoup.
Votre invitée Adèle donne envie de faire une semaine entière sur le féminisme. Vous voulez nous parler des enfants là.
Oui, depuis quelques mois, les livres de philosophie destinés aux enfants se multiplient en librairie. Alors on trouve de tout, d'excellentes choses et des moins bonnes. Et parmi les bons livres, on trouve à partir de ce jeudi, chez Gallimard Jeunesse Giboulée, deux livres qui s'adressent aux enfants, ou plutôt aux jeunes adolescents à partir de 13 ans. Ces deux livres, c'est « Je ne veux pas vieillir » de Claire Crignon de Oliveira et « De bonnes raisons d'être méchant » de Denis Kambouchner. Ils font chacun 80 pages, ils sont colorés, illustrés, aérés, ce qui en fait de beaux objets en tant que tels. Et ce sont surtout de bons outils pédagogiques, puisqu'en marge des textes, ils proposent des définitions, des termes compliqués qui sont utilisés, et des citations célèbres en rapport avec le thème, le tout référencé dans un index en fin de livre. Et pour le fond, le livre « Je ne veux pas vieillir » se demande pourquoi vouloir vivre longtemps si l'on peut apprendre à vieillir et pour montrer finalement que vieillir, ce n'est pas renoncer au désir, mais c'est aussi prendre le temps de réfléchir à son existence et au sens qu'on veut lui donner. Voilà, c'est donc de bonnes raisons d'être méchant et « Je ne veux pas vieillir », on trouve ça chez Gallimard, dans la collection Giboulée.
Évidemment, comme les enfants se posent les questions que nous passons notre vie à essayer de ne pas nous poser, il faut qu'ils fassent de la philosophie. Merci Adèle, c'est noté, on retrouve tout ça en ligne. Hein. Le journal, enfin les nouveaux chemins de la connaissance et son journal, donc, et leur journal, c'est fini pour l'heure. Aristote, Heidegger, la présence absente, Christine de Pizan et la philosophie pour les enfants, c'était le programme du jour. On se retrouve demain de 10h à 11h comme tous les jours pour la suite de cette semaine sur Aristote en compagnie d'Annick Stevens qui viendra nous parler de la physique d'Aristote. On se retrouve aussi cette nuit, auditeurs insomniaques, comme chaque nuit sur France Culture, si vous le souhaitez, entre 3h05 et 4h05 pour la rediffusion de l'émission du jour. On se retrouve aussi à toute heure du jour et de la nuit sur Internet, où vous attendent téléchargements et bibliographies. À demain matin, France Culture, 10h59, dans un instant, question d'époque.